Un fil à la patte, acte 2. La chambre à coucher de Madame du Verger dans son hôtel, grande chambre carrée, riche et élégante, ouvrant au fond par une grande porte à 4 vantaux sur les salons. Les 2 vantaux extrêmes sont fixes et mobiles à volonté. À gauche, 3e pan, porte à un battant. À droite, 1er plan, autre porte également à un battant. À gauche, 2e plan, l'emplacement d'un lit de tête. Le lit a été enlevé pour la circonstance. Il ne reste que le baldaquin et les rideaux du lit, à la place duquel on a mis un fauteuil. Au fond, face au public et à gauche de la porte d'entrée, grande armoire de style, vide. À droite de la porte d'entrée, presque entièrement dissimulée par un paravent à 6 feuilles, la dernière feuille fixée à l'angle de droite du décor, une toilette de dame avec sa garniture. Devant le paravent, une table carrée, une chaise derrière la table. Une chaise contre le mur de chaque côté de la porte de droite. À gauche, au milieu de la scène, une chaise longue placée presque perpendiculairement à la scène, la tête vers le fond, le pied côté du spectateur. Le dossier de la chaise longue doit être très peu élevé. À gauche également, presque au pied de la chaise longue, un petit guéridon sur lequel est un timbre électrique. À gauche du baldaquin du lit, une chaise volante. Du milieu, du panneau compris sous le baldaquin, émerge une tulipe électrique qui permet en temps ordinaire de lire dans le lit. Un lustre allumé au milieu de la pièce. Au fond, dans le second salon, face au public, une cheminée. Dans cet acte, tout le monde est en tenue de soirée. Scène première. Viviane, Miss Betting, en tenue de ville, puis la baronne. Viviane, près du guéridon, à Miss Betting, qui, à genoux près d'elle, achève de lui lacer son corsage.
Will it soon be done, miss?
Miss Betting.
A minute, it's ready. A pin, please.
Viviane lui donnant une épingle.
Again? Then you wish my lover to pick his fingers?
Miss Betting, moitié riant, moitié grondant.
Oh, Miss Viviane, shocking!
Elle rit. La baronne entrant du fond.
Eh bien, Viviane, tu es prête?
Viviane.
Mais quand Miss aura fini de m'épingler? Je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles.
Étourdiment.
On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade.
La baronne est estomaquée.
Qu'est-ce que tu dis là, malheureuse enfant? Tu emploies des comparaisons.
Viviane, naïvement.
Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit.
La baronne, à part, avec un sourire indulgent.
Oh, c'est vrai, pauvre petite.
Viviane, changeant de ton.
« Oh, maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. »
La baronne.
« Comment? Elle n'y assistera pas ?»
Viviane.
« Non, moi qui aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. »
La baronne à Miss qui vient de se lever sur un ton aimablement grondeur.
« Oh, mais pas du tout. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. »
Miss souriant.
« What ?»
La baronne essayant de se faire comprendre.
« Non, je dis, Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. »
Voyant que Miss sourit sans comprendre, avec l'accent anglais.
« Il faut vous rester pour soirée de nous. Soirée, danse, danse. »
Elle esquisse le mouvement de danser. Miss la regarde en souriant, l'air hébété. Au public.
« Elle n'a pas saisi une syllabe. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre ce que je lui dis. »
Miss souriant toujours.
What does that mean?
La baronne abandonnant la partie à Viviane.
Oh, explique-lui, toi, j'y renonce.
Viviane à Miss en anglais.
Ma'am, I wish as you'd say, if you really cannot stay to our soirée.
Miss à la baronne et très rapidement.
Oh no, and I much regret it, for it would have given me the pleasure of getting acquainted with Miss Vivian's lover. But my mother's poorly, and I promise to spend the evening with her.
La baronne, qui a écouté cette avalanche de paroles avec un sérieux comique, accompagnée de hochements de tête comme si elle comprenait.
Oui, ce n'est pas la peine de dire tout ça à moi. Je ne comprends pas un mot.
À Viviane en riant.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Viviane.
Elle dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante.
La baronne avec intérêt.
Ah, oui, yes, maman, malade.
Il. Miss, désolée.
Oh yes, and I'm very anxious about her. At her age, the least illness can become serious.
La baronne qui n'a pas compris un mot.
Oui, oui, yes, yes.
Au public avec pleine conviction.
Et l'on dit que le français est une langue difficile.
Viviane à Miss qui achève de disposer sa toilette.
Are you ready, Miss?
Miss à Viviane.
Now it's ready.
Viviane passant aux deux.
Ah, oh, c'est pas malheureux. Thank you, Miss.
Miss.
Oh, you are quite lovely, so.
Viviane.
Oh oui, je suis chic.
Miss avec conviction.
Oh yes, chic.
Changeant de ton.
Now you don't want me anymore. Will you ask your mother if I may go?
La baronne.
Qu'est-ce qu'elle dit? May go?
Viviane.
Miss demande si elle peut s'en aller.
La baronne.
Oh, si elle veut. Ah, seulement dis-lui que je l'ai pris de venir demain de bonne heure, parce que je ne pourrai pas te conduire comme à l'habitude à ton cours de chant, chez Monsieur Capoul, et je lui demanderai de t'accompagner à ma place.
Viviane. Bon. Amis.
Yes, you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson, to Mr. Capoul.
Miss à la baronne.
Oh yes, with pleasure. Goodbye, miss.
Viviane, passant au premier et s'asseyant au pied de la chaise longue.
Goodbye.
Miss tout en remontant.
Goodbye, madame.
La baronne qui est remontée.
Goodbye, goodbye.
À part redescendant.
Eh mais, je commence à savoir quelques mots, moi.
Sortie de Miss par le fond. Scène 2. Viviane, la baronne. La baronne allant à Viviane, la regardant avec tendresse, l'embrasse, puis s'asseyant près d'elle sur la chaise longue.
« Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour !»
Viviane indifférente.
« Mon Dieu, oui !»
La baronne, le bras passé autour de la taille de sa fille.
« Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Bois-d'Anguin ?»
Viviane.
« Moi, oh, ça m'est égal !»
La baronne ahurie.
« Comment ça t'est égal ?»
Viviane positive.
En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari.
La baronne.
Bien, mais il me semble que ça suffit.
Ah ça, pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Viviane.
Oh, pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante, on doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari.
La baronne renversée.
Oh!
Viviane.
C'est une dame de compagnie. Homme, voilà.
La baronne.
Mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais?
Viviane.
Ah oui, la maternité, c'est gentil. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans?
La baronne.
Comment ce qu'il a à faire?
Viviane, très logique.
Mesdames, est-ce qu'il n'y a pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas?
La baronne va pour lui répondre, puis, ne trouvant rien, se levant et gagnant la droite.
« Elle est déconcertante !»
à Viviane qui s'est levée.
« Enfin, en quoi ne te plaît-il pas, monsieur de Bois-d'Anguin ?
Un beau nom !» Viviane gagnant l'extrême gauche avec une moue.
« Pfff, noblesse de l'Empire !»
La baronne.
« Il est bien de sa personne !»
Viviane remontant jusqu'au-dessus de la chaise longue.
« Oh, pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid, alors ?»
La baronne, qui remontait parallèlement à sa fille, redescend.
« Mais ça n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet, quand ça ne serait que pour éviter de le compléter ensuite. »
Viviane allant à elle.
« Oh bien oui. Mais comme moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours l'homme que je ne peux pas épouser. »
La baronne.
« Mais pourquoi ça ?»
Viviane.
« Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais désiré un homme très en vue. »
La baronne.
« Eh bien, mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple ?»
Viviane.
« Non, un mauvais sujet. »
La baronne bondissant.
« Mais qu'est-ce que tu dis ?»
Viviane.
« Un homme comme Monsieur de Fresnel, tiens. »
Mouvement de la baronne.
« Je le cite comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons vu l'été dernier à Trouville. Ah, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. »
La baronne.
« Oh, l'horreur ! Un garçon qui a une réputation !»
Viviane appuyant sur le mot.
« Détestable, oui, maman. C'est ça qui vous pose un homme. »
La baronne.
« Oh !»
Viviane.
« Un monsieur dont on pourrait citer toutes les maîtresses. »
La baronne, scandalisée.
Les maîtresses ? Viviane, où as-tu appris à prononcer ces mots-là ?
Viviane, très naturellement.
Dans l'histoire de France, maman.
Récitant. Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 1715, 1774. La baronne avec candeur.
Oh, des rois ! Donner un pareil exemple à des jeunes filles.
Viviane.
Il paraît qu'il y en a même trois qui sont mortes pour lui.
La baronne.
Pour Louis XV ?
Viviane.
Mais non, pour Monsieur de Fresnel. Deux d'un coup de revolver et la troisième d'indigestion.
Changeant de ton.
Aussi, est-ce que toutes les femmes couraient après lui à Trouville ?
La baronne, la remenant à elle au moment où elle va pour gagner la gauche.
Mais toi, toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu.
Viviane.
Tiens, c'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie. C'est comment tout ça ? Pourquoi désire-t-on une chose ? C'est parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet ? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel,
la baronne.
Il y avait beaucoup de demandes.
Viviane.
Tu y es. Alors je me disais, voilà comme j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. Ça devient comme une espèce de légion d'honneur. Et l'on est doublement fier de l'obtenir. D'abord pour la distinction dont on est l'objet, et puis parce que ça fait rager les autres.
La baronne.
Mais c'est de la vanité, ça. Ce n'est pas de l'amour.
Viviane.
Je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est quand on peut se dire « Ah ah, cet homme-là, vous auriez bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai, et vous n'aurez pas. »
Avec une petite révérence. « C'est pas autre chose, l'amour. » La baronne descendant un peu.
« Qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. »
Viviane, la rejoignant par derrière, et comme une enfant câline, la tête par-dessus l'épaule de sa mère, l'enserrant de ses deux bras.
« Non, vois-tu, maman, tu es encore trop jeune pour comprendre ça. »
La baronne riant.
Il faut croire.
Elle l'embrasse. Viviane.
Eh bien, voilà justement ce que je reproche à Monsieur de Bois d'Anguin. Il est très gentil, très bien, mais il ne fait pas sensation. Enfin, quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui.
La baronne.
Est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse ?
Viviane, quittant sa mère et gagnant la gauche.
Oh, ça je n'en doute pas.
Revenant à sa mère.
Et puis, si ça n'était pas, avec le divorce, n'est-ce pas, c'est simple.
Elle gagne la gauche. La baronne au public.
Elle me paraît en bonne disposition pour le mariage.
Scène 3. Les mêmes, Émile, puis Bois d'Anguin. Émile, du fond.
Monsieur de Bois d'Anguin, madame.
La baronne.
Lui, faites-le entrer.
Bois d'Anguin, très gai, très empressé, un bouquet de fiancée à la main.
Bonjour, belle maman. Bonjour, ma petite femme.
La baronne.
Bonjour, mon gendre.
Viviane, lui souriant en prenant le bouquet qu'il lui présente.
Toujours des fleurs, alors ?
Bois d'Anguin.
Pour vous, jamais trop.
À part.
Et puis ça m'est égal, j'ai un forfait avec mon fleuriste.
Viviane a déposé le bouquet sur le guéridon. La baronne.
Vous n'embrassez pas votre fiancé. Aujourd'hui, ça vous est permis.
Bois d'Anguin.
Comment donc ? Tout le temps, tout le temps.
En l'embrassant, il se pique à une des épingles du corsage de Viviane.
Oh !
Viviane moqueuse.
Prenez garde, j'ai des épingles.
Bois d'Anguin se suçant le doigt.
Vous ne l'auriez pas dit, je ne m'en serais pas aperçue.
Viviane.
Voilà ce que c'est que de mettre les mains.
Bois d'Anguin.
Eh bien, encore une fois, là, sans les mains.
Viviane.
Oh, gourmand.
Il l'embrasse en gardant ses mains derrière le dos. La baronne, qui s'est approchée de Bois d'Anguin, de façon qu'en se retournant, la figure de celui-ci se trouve portée contre la sienne, tendant la joue.
Et la belle maman, alors, on ne l'embrasse pas ?
Bois d'Anguin, après avoir fait une légère grimace.
Si, si, comment donc ?
Ah, bien.
Il l'embrasse, puis à part au public.
Le plat de résistance après le dessert.
La baronne joviale.
Et moi, au moins, on peut me mettre les mains, je n'ai pas d'épingle.
Bois d'Anguin.
À la bonne heure.
La baronne.
Et maintenant, une bonne nouvelle pour vous, mon gendre. L'église ayant tous ses services retenus pour le jour que nous avons fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours.
Bois d'Anguin, ravi.
Ah bien, j'en suis bien aise. Justement, mon fleuriste me disait tout à l'heure, comme vous faites durer longtemps vos fiançailles.
À Viviane.
Eh bien, je suis bien content.
La baronne dans le dos de Bois d'Anguin.
Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas ?
Bois d'Anguin se retournant.
Qui ça ?
La baronne.
Eh bien, ma fille, voyons, pas le grand turc !
Bois d'Anguin.
C'est juste, je fais des réflexions bêtes.
Viviane.
Et puis, c'est ce que je disais à maman, avec le divorce, n'est-ce pas ?
Bois d'Anguin, interloqué.
Ah, vous avez déjà envisagé ?
Viviane. Oh, moi, je trouve ça très chic d'être divorcée.
Boislanguin.
Ah.
Viviane.
J'aimerais encore mieux ça que d'être veuve.
Boislanguin.
Tiens, et moi aussi.
La baronne, un peu au-dessus de Boislanguin, lui prenant la main gauche de sa main gauche, l'autre main sur l'épaule de son gendre.
D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez jamais à recourir. Dieu merci. Fernand est un garçon sérieux, rangé.
Viviane avec un soupir.
Oh oui.
Boislanguin.
Ça.
La baronne quittant la main de Boislanguin.
Il a sans doute eu, comme tous les jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse.
Boislanguin avec aplomb.
Jamais.
La baronne, à mi-voix à Boislanguin, ravie.
Comment ? Pas la moindre petite bonne amie ?
Boislanguin.
Moi ? Ah bien, je ne comprends pas ça. Souvent, je voyais des petits jeunes gens de mon âge courir les demoiselles. Ça me passait. Je leur disais, mais enfin, qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes ?
Viviane avec pitié à part.
Oh là 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 !
Boislanguin.
Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme.
Viviane et la baronne se rapprochant vivement et chacune sur un ton différent, la première comme s'il y avait
« ce serait possible »,
l'autre comme elle dirait « je le savais bien ».
Ah ! Ah !
Boislanguin.
C'était ma mère.
Viviane, qui s'était rapprochée avec une lueur d'espoir, retourne où elle était avec déception. La baronne touchée.
Oh, c'est bien ça !
Boislanguin.
Je m'étais toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui sera mon épouse.
La baronne lui serrant la main et le montrant à sa fille.
Je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses.
Boislanguin.
Je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les reins sûrs de ma vie de garçon.
Viviane.
Quelles reins sûrs ? Des reins sûrs de quoi ?
Boislanguin interloqué.
Hein ? De... Je ne sais pas, c'est une expression, on dit comme ça, apporter les reins sûrs de sa vie de garçon. Ça ne peut pas se préciser, mais ça fait image.
La baronne.
Oui, oui, il a raison.
Boislanguin à Viviane.
Eh bien, moi, au moins, en m'épousant, vous pouvez dire que c'est moralement comme si vous épousiez Jeanne d'Arc.
Viviane, le regardant.
Jeanne d'Arc ?
Boislanguin.
Tout c'est que ça part, bien entendu.
Viviane.
Pourquoi Jeanne d'Arc ? Vous avez sauvé la France ?
Boislanguin.
Oh non, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais telle, j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc à la fin de sa vie d'héroïsme, quand elle comparut au tribunal de cet affreux cochon.
La baronne sévèrement.
Oh Fernand, ces expressions dans votre bouche.
Boislanguin.
Eh bien, comment voulez-vous que je dise ? Il s'appelle cochon, je ne peux pas l'appeler Arthur.
Viviane railleuse.
C'est juste.
La baronne.
Fernand, vous êtes une perle.
Viviane.
Il est encore au-dessous de ce que je croyais.
Boislanguin, à part, passant aux trois.
Oh, c'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir.
Scène 4. Les mêmes, Émile, puis de Fontanet. Émile Dufond.
Madame, il y a déjà un monsieur d'arrivée.
La baronne.
Déjà ? Et qui ça ?
Monsieur de Fontanet.
Boislanguin, à part, sursautant.
Oh, Fontanet, fichtre ! Le bonhomme de ce matin.
La baronne.
Qu'est-ce que vous avez ? Vous le connaissez ?
Boislanguin vivement.
Moi, pas du tout.
La baronne. Ah, je croyais. À Émile.
Priez monsieur de Fontanet de venir nous retrouver ici.
Émile sort. Boislanguin.
Hein ? Comment ? Ici ?
La baronne.
Pourquoi pas ? Je ne fais pas de cérémonie avec Fontanet.
Boislanguin à part.
Mon Dieu, est impossible de le prévenir. Pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat.
Émile, introduisant Fontanet.
Si monsieur veut entrer.
Il sort après avoir introduit. De Fontanet.
Ah, bonjour, madame la baronne, bonjour.
Boislanguin qui s'est précipité à sa rencontre de façon à se mettre entre lui et la baronne.
Ah, la bonne surprise. Bonjour, ça va bien ?
Il l'emmène ainsi jusqu'à l'avant-scène. De Fontanet, ahuri de cet accueil.
Comment, vous ici ?
Boislanguin.
Moi-même.
La baronne qui ne comprend rien à la scène.
Hein ?
Boislanguin bas et vivement à Fontanet.
Pas d'impair, surtout pas d'impair. Oh ! Ah, ce cher Fontanet !
La baronne.
Vous le connaissez donc ?
Boislanguin.
Parbleu si je le connais !
La baronne.
Mais vous venez de nous dire ?
Boislanguin.
Parce que je ne savais pas que c'était de lui que vous me parliez. Mais je ne connais que lui, ce cher Fontanet.
Il lui serre la main. De Fontanet.
Comment ? Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble.
Boisdanguin, très troublé.
Hein? Ce matin? Ah oui, oh si peu. Je n'avais pas faim alors.
La baronne.
Tiens, où ça avez-vous déjeuné?
Boisdanguin faisant des signes à Fontanet.
Eh bien, là-bas, vous savez, comment ça s'appelle donc déjà?
De Fontanet.
Chez la Divette.
Boisdanguin.
L'idiot!
La baronne.
Chez la Divette?
Viviane.
Qu'est-ce que c'est, la Divette?
De Fontanet.
La Divette.
La Divette, eh bien, c'est...
Boisdanguin
vivement.
C'est un restaurant. Le restaurant, la Divette.
De Fontanet à part.
Qu'est-ce qu'il dit?
Boisdanguin à la baronne et à Viviane s'efforçant de rire.
Comment, vous ne connaissez pas le restaurant, la Divette?
La baronne et Viviane.
Non? Non?
Boisdanguin riant très fort pour dissimuler son trouble.
Ah, dites donc! Ah, dites donc, Fontanet, elles ne connaissent pas le restaurant, la Divette!
De Fontanet riant comme lui.
Moi non plus.
Boisdanguin ne pouvant retenir une grimace.
Oh! Oh, 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 ni vous non plus!
Le montrant au doigt.
Il va dans un restaurant et ne sait même pas comment il s'appelle!
Marchant sur lui, lui poussant des bottes de façon à lui faire gagner l'extrémité de la scène.
Ce cher Fontanet, il ne connaît pas le restaurant La Divette. Vivement, eh ben, taisez-vous donc, voyons, taisez-vous donc!
La baronne qui arrive avec eux gaiement.
Et où le prenez-vous, ce restaurant La Divette?
Boisdanguin étourdiment.
Je ne le prends pas.
La baronne, hein?
Boisdanguin. Ah, où je le prends, le restaurant La Divette?
À Fontanet.
Belle maman me demande où je le prends.
La baronne.
Eh bien oui, où le prenez-vous?
Boisdanguin.
J'entends bien.
À part.
Quelle fichue idée on a eue de parler du restaurant La Divette.
Viviane.
Eh bien?
Boisdanguin très embarrassé.
Eh bien, voilà, c'est un peu loin.
La baronne gaiement.
Oh, ça ne fait rien.
Boisdanguin.
Bon, eh bien, n'est-ce pas, vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est la place de l'Opéra?
La baronne.
Mais oui, mais oui.
Boisdanguin.
Vous vous mettez comme ça sur le refuge. Vous savez, l'Opéra devant vous et l'avenue dans le dos. Vous voyez ça?
Bon. Se retournant brusquement sur lui-même et tout le monde avec lui.
Vous vous retournez vivement.
Sur un ton calme.
De façon à avoir l'Opéra dans le dos et l'avenue en face.
La baronne.
Mais pardon, il aurait été plus simple de commencer par là tout de suite.
Boisdanguin.
Ça c'est vrai, mais enfin, ça ne s'est pas trouvé comme ça.
La baronne, au moment où Boisdanguin va continuer.
Et puis dites donc, vous savez, je vous demande ça, au fond ça m'est égal.
Boisdanguin.
Oui? Ah bien, alors inutile, n'est-ce pas?
À part.
Ouf!
De Fontanet à part, le considérant.
Mais qu'est-ce qu'il a donc?
La baronne à Fontanet.
Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Je n'ai donc pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille.
De Fontanet.
Qui ça, le fiancé de votre fille?
La baronne.
Mais lui, monsieur de Boisdanguin.
De Fontanet.
Hein? Comment? C'est lui qui...
À part.
L'amant de Lucette. Oh là là, je comprends maintenant le restaurant La Divette.
Oh.
Comment? C'est vous qui... Eh bien, hein? Quand je vous disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du vôtre, hein?
Boisdanguin à part.
L'animal. Tiens!
À bout de ressources, il lui écrase un pied de toute la force de son talon. De Fontanet, hurlant de douleur.
Oh là 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 là! Oh là là!
Tous.
Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose? Il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Dites-le!
De Fontanet qui est allé s'asseoir à cloche-pied sur le canapé.
« Oh mon pied, oh mon pied !»
Boisdanguin à part.
« Comme ça, ça changera la conversation. »
Il remonte. De Fontanet furieux.
« Oh là là, c'est vous avec votre talon !»
Boisdanguin.
« Moi? Comment? Oh !»
De Fontanet.
« Oh là là, juste sur mon corps !»
Boisdanguin.
« Vous avez des corps? Il a des corps. Oh, c'est laid, ça !»
De Fontanet.
Ah, je ne sais pas si c'est laid, mais quand on vous marche dessus, c'est affreux.
Viviane, de l'autre côté de la chaise longue.
Eh bien, vous sentez-vous mieux, monsieur de Fontanet?
De Fontanet se levant et gagnant le 4 en marchant avec difficulté.
Merci, mademoiselle, merci, ça va un peu mieux.
Boisdanguin.
Mais oui, ça ne l'empêchera pas de signer à notre contrat quand maître Lantry sera arrivé.
De Fontanet, tout en se frottant le pied qu'il ne peut encore poser carrément par terre.
Ah, c'est maître Lantry qui est votre notaire.
La baronne.
Oui, et vous le connaissez?
De Fontanet, moitié riant, moitié gênant.
Oui, oui,
Oh, un très bon notaire, Boilanguin. N'est-ce pas, de Fontenay?
Il n'a qu'un défaut, le pauvre homme. Ce qu'il sent mauvais.
Tous retenant une envie de rire.
Ah, ah, ah,
de Fontenay. Vous n'avez pas marqué.
Pfff!
Il souffle ainsi dans le nez de Boilanguin.
Ah, c'est insoutenable.
Il gagne la droite. Boilanguin à part.
La pelle qui se moque du fourgon.
Scène 5. Les mêmes. Émile. Émile, un plateau avec une carte à la main, descendant aux trois.
Madame, une dame est là, accompagnée de deux personnes, et elle dit que madame l'attend. Voici sa carte.
La baronne.
Ah, parfaitement, j'y vais.
Émile remonte.
Boilanguin.
Qu'est-ce que c'est? La baronne.
Ah, voilà, c'est une surprise que je ménage à mes invités.
De Fontenay.
Vraiment?
Boilanguin.
Mais à nous, vous pouvez bien le dire.
La baronne.
Non, non, vous verrez, c'est une surprise, vous serez content. Viens, Viviane.
Viviane.
Oui, maman.
Sortie de la baronne et de Viviane par le fond. Boilanguin, qui a accompagné la baronne jusqu'au fond, redescend vivement sur Fontenay.
Viviane. Oui, maman.
Sortie de la baronne et de Viviane par le fond. Boilanguin, qui a accompagné la baronne jusqu'au fond, redescend vivement sur Fontenay.
Mais malheureux, vous ne vous aperceviez donc pas des transes par lesquelles vous me faisiez passer tout à l'heure?
De Fontenay.
Et mon ami, je l'ai compris après. Mais est-ce que je pouvais penser que vous étiez le fiancé? Vous, l'amant de Lucette Gauthier?
Boilanguin.
Hé, Lucette, il y a 15 jours que c'est fini.
De Fontenay.
Comment? Je vous y ai vu ce matin.
Boilanguin.
Qu'est-ce que ça prouve? Ce matin, c'était en passant, pour prendre congé. PPC. L'adieu de l'étrier.
Il gagne la gauche. De Fontenay.
Ah!
Boilanguin revenant vivement à lui.
Surtout, n'est-ce pas? Si vous voyez Lucette Gauthier, pas un mot de mon mariage. Elle le saura bien assez tôt.
De Fontenay.
Entendu, entendu.
Voix dans la coulisse. De Fontenay.
Tiens, voilà la baronne qui revient.
Boilanguin d'un air au fond indifférent.
Avec sa surprise, sans doute.
De Fontenay.
Tiens, voyons là.
Boilanguin reste à l'avant-scène. Fontenay remonte et une fois au fond, parlant dans la coulisse.
Comment, c'est elle? Comment, c'est vous?
Il disparaît dans le second salon. Boilanguin prit lui aussi de curiosité.
Mais qui ça, vous? Qui ça, elle?
Il remonte, regarde, et bondissant.
Miséricorde, Lucette Gauthier!
Il se précipite vers la porte de gauche qu'il trouve fermée.
Oh Dieu, c'est fermé!
Affolé, ne sachant où donner de la tête.
Lucette ici! Pourquoi? Comment?
Il veut traverser la Seine pour gagner la porte de droite, mais il s'arrête brusquement au moment de passer devant la porte du fond en voyant les autres qui arrivent. Il n'a que le temps de rebrousser chemin et de se jeter dans l'armoire du fond.
Ah! À la grâce de Dieu!
Il referme les battants sur lui. Scène 6. Les mêmes, la baronne, Viviane, Lucette, Marceline, de Chenviette. Tous les personnages sont dans la pièce du fond. De Fontenay.
Ah bien, c'est égal. Pour une surprise, voilà bien une surprise.
La baronne.
N'est-ce pas?
À Lucette.
Tenez, mademoiselle, si vous voulez entrer par ici.
De Fontenay à part.
Dieu le malheureux.
Haut et vivement, barrant l'entrée à tous les personnages.
Non, non, pas ici, pas ici.
Tous étonnés.
Mais pourquoi? 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 Pourquoi?
De Fontenay.
Parce que...
Jetant un rapide regard dans la pièce et ne voyant plus Boilanguin. À part.
Personne?
Oh.
Ah, et puis ici, si vous voulez, vous savez.
Tous.
Mesdames.
De Fontenay à part.
Il a filé. Je respire.
Tout le monde entre par la porte du fond dont les quatre vantaux sont ouverts. La baronne à Lucette.
Voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra.
Lucette.
Mais comment donc, madame? J'y serai divinement.
La baronne à Marceline qui porte un gros carton à robe.
Tenez, si vous voulez poser ça là, ma fille.
Marceline.
Sa fille. En voilà une façon de me parler.
Elle porte le carton sur la table du fond. Lucette présentant Cheneviette qui tient le sac de cuir dans lequel sont les objets de toilette et de théâtre de Lucette.
Voulez-vous me permettre de vous présenter Monsieur de Chenviette, que je me suis permis d'amener, mon plus vieil ami et un peu mon parent, par alliance, en même temps que mon régisseur, quand je vais en soirée.
La baronne.
Enchantée, monsieur.
Chenviette s'incline.
Marceline. Il n'y a pas de danger que ma sœur pense à présenter, moi.
La baronne.
Vous voyez, mademoiselle, vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour la circonstance.
Lucette. Oh, je suis vraiment désolée de vous avoir donné tant de mal.
La baronne.
Mais du tout, j'ai tenu à faire une loge digne d'une étoile comme vous.
Lucette.
En effet.
Apercevant le fauteuil placé sous le baldaquin du lit.
Oh, que vois-je, un trône ?
Tous.
Un trône ?
Lucette.
Oh, vraiment, c'est trop !
La baronne.
Où ça, un trône ? Ça, ce n'est pas un trône, c'est le baldaquin de mon lit. J'ai fait enlever le lit et j'ai mis le fauteuil à la place.
Lucette, un peu dépitée.
Ah, je disais aussi.
Marceline, à part.
C'est bien fait, c'est pas un trône.
La baronne, qui va successivement aux différents objets qu'elle désigne, suivie à une certaine distance de Chenviette, qui remplit son emploi de bon régisseur.
Vous trouverez là derrière ce paravent le nécessaire pour la toilette.
S'approchant de l'armoire comme pour l'ouvrir.
Et voici une armoire où vous pouvez ranger vos costumes. Elle est vide.
Elle quitte l'armoire et descend à gauche de la chaise longue.
Lucette.
Parfait.
Geneviève reste à partir de ce moment au-dessus de la chaise longue.
La baronne. Sur cette table, un timbre électrique. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'à sonner. D'ailleurs, cette porte...
Elle va à la porte de gauche.
Tiens, qui est-ce qui l'a donc fermée ?
À Viviane qui est au fond près de l'armoire, causant avec Fontanet.
Bichette, veux-tu faire le tour ? La clé est de l'autre côté.
Viviane.
Oui, maman.
Elle sort par le fond.
La baronne, gagnant le 3.
Cette porte donne sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura encore plus vite fait d'aller à la cuisine elle-même.
Marceline, piquée.
La femme de chambre ? À quelle femme de chambre ?
La baronne.
Mais, mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas...
Marceline, pincée.
Pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier.
La baronne.
Oh, pardon, mademoiselle, je suis désolée.
Marceline, aigre.
Il n'y a pas de mal.
À part.
On lui en donnera des femmes de chambre.
Elle remonte à la table, s'occuper de son carton.
Viviane, entrant de gauche.
Voilà, c'est ouvert.
Elle descend au 1, à gauche de la chaise longue, et prend son bouquet sur le guéridon.
La baronne.
Maintenant, si vous voulez bien, mademoiselle, venir jusqu'au salon pour voir si tout est à votre convenance.
L'emplacement du piano, de l'estrade.
Lucette.
Oh, ça, ça regarde mon régisseur.
À Geneviève.
Geneviève, à toi, mon ami.
De Geneviève.
J'y vais.
Il remet le sac à Lucette, puis à la baronne.
Si madame veut m'indiquer.
La baronne remontant.
Nous vous accompagnons. Vous venez, Fontanet ?
De Fontanet, qui est dans le salon du fond, adossé à la cheminée.
Je suis à vos ordres.
Lucette, qui a ouvert son petit sac sur le guéridon.
Pendant ce temps-là, aidée de ma sœur, moi ici, je vais faire ma petite installation.
La baronne, au fond, au moment de sortir.
C'est cela. Viens, Viviane.
Mais qu'est donc devenu ton fiancé ?
Viviane.
Oh, je ne sais pas, maman. Il prend l'air, sans doute.
Elle sort avec sa mère en emportant son bouquet. Scène 7. Lucette, Marceline, Bois d'Anguin, dans l'armoire.
Marceline, qui a ouvert son carton dont elle a déposé le couvercle devant elle sur la chaise, entre le dossier et la table.
C'est agréable. On me prend pour ta femme de chambre.
Lucette.
Eh bien, il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur.
Marceline.
Non, mais tu aimes ça, toi, quand on peut m'humilier.
Lucette.
Allons, au lieu de grogner, déballe donc plutôt mes costumes qui se froissent dans ce carton et pends-les dans l'armoire.
Marceline, tout en déballant.
Oh, toi, tu seras cause que je ferai un coup de tête un jour.
Lucette.
Et qu'est-ce que tu feras, mon Dieu ?
Marceline, gagnant le milieu de la scène avec un costume de théâtre sur le bras.
Je prendrai un amant.
Lucette.
Toi !
Marceline.
Oh, mais tu ne me connais pas.
Elle pétrit nerveusement et, sans faire attention à ce qu'elle fait, le costume qu'elle a sur le bras.
Lucette, riant.
Oh là là, un amant, elle !
Changeant de ton.
Fais donc ascension, tiens, à la façon dont tu portes ces effets.
Passant à droite pendant que Marceline est à l'armoire.
Ah, Pristine, non, tu n'es pas une femme de chambre, parce que si tu étais une femme de chambre, tu ne resterais pas longtemps au service des gens.
Marceline, allant à l'armoire.
C'est surtout au tien que je ne resterai pas.
Tirant vainement le bâton de l'armoire.
Mais qu'est-ce qu'est là, cette armoire ? On ne peut pas l'ouvrir.
Lucette, qui derrière la table est en train de remettre le couvercle sur le carton.
Elle est peut-être fermée. Tourne la clé.
Marceline.
C'est ce que je fais. Il n'y a pas moyen.
Lucette.
Comment il n'y a pas moyen ?
Allant à l'armoire.
Ah là là, même pas capable d'ouvrir une armoire.
Tiens, ôte-toi de là.
Elle la bouscule pour se mettre à sa place et essaie d'ouvrir.
C'est vrai que c'est dur, Marceline.
Là, je ne suis pas fâchée.
Lucette s'épuisant à tirer.
C'est drôle, on dirait que la résistance vient de l'intérieur,
à Marceline. Essayons à nous deux, bien ensemble. Lucette et Marceline.
Une, deux, trois. Aïe donc!
La porte cède, Boislanguin, entraîné par l'élan, manque de tomber sur elle. Lucette et Marceline poussant un cri strident.
Ah! Ah!
Elle recule épouvantée, n'osant regarder.
Lucette. Un homme!
Marceline.
Un cambrioleur!
Boislanguin, qui a repris son équilibre dans l'armoire, bien calme.
Ah tiens, c'est vous!
Lucette.
Fernand!
Marceline.
Boislanguin!
Lucette, moitié colère, moitié tremblante.
Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais là, toi?
Boislanguin sortant de l'armoire.
Moi, eh bien, tu vois, je vous attendais.
Lucette, même jeu.
Dans l'armoire.
Boislanguin.
Hein? Ah oui, dans l'armoire. Oh, tu sais, quelquefois dans la vie, on a besoin de s'isoler. Et ça va bien depuis tantôt.
Lucette.
Oh, qu'est-ce que c'est bête de vous faire des frayeurs pareilles.
Marceline.
Il faut être idiot, vous savez, pour remuer les sangs comme ça.
Boislanguin avec un rire forcé pour dissimuler son embarras.
Je vous ai fait peur? Oh, alors j'ai réussi, c'était une plaisanterie.
Lucette.
Oh, tu appelles ça une plaisanterie?
Boislanguin, même jeu.
Oui, je me suis dit, elle arrive, elle ouvre l'armoire et elle me trouve dedans. C'est ça qui est une bonne farce.
Lucette.
Ah bien, elle est jolie ta farce.
Marceline.
Elle est stupide.
Boislanguin.
Merci.
À part, descendant à gauche.
Mon Dieu, pourvu que les autres n'arrivent pas.
Scène 8. Les mêmes de Cheneviette. De Cheneviette.
Tout est prêt, là.
Apercevant Boislanguin.
Ah, Boislanguin.
Boislanguin. Cheneviette. De Cheneviette.
Bien ça, comment vous êtes ici, vous?
Boislanguin essayant de se donner l'air dégagé.
Mon Dieu, oui, mon Dieu, oui.
Lucette.
Mais tu ne sais pas où j'ai trouvé? Dans l'armoire.
De Cheneviette.
Comment dans l'armoire?
Boislanguin se tordant mais sans conviction.
Oui, oui, hein, c'est drôle.
De Cheneviette à part.
Ah ça, il est fou.
Marceline, qui pendant ce qui précède, est allée accrocher les effets de théâtre dans l'armoire, emportant le carton.
J'emporte ça par là.
Lucette.
Bonbon.
Marceline maugréant en sortant de gauche.
Par la porte de la femme de chambre.
Elle sort. Lucette à Boislanguin.
Mais au fait, tu connais donc les Duverger, toi?
Boislanguin avec aplomb.
Oui, oui, oh, depuis longtemps. J'ai vu la mère toute petite.
Tous.
Hein?
Boislanguin se reprenant.
La mère m'a vu tout petit, alors.
Lucette.
Ah, c'est drôle.
Boislanguin se tordant en gagnant la gauche.
Hein? N'est-ce pas? C'est drôle, c'est très drôle.
Lucette, le regardant avec étonnement, ainsi que Cheneviette.
« Mais qu'est-ce qu'il a donc à rire comme ça ?»
Boislanguin redevenant subitement sérieux et bondissant sur Lucette, pendant que Cheneviette descend au 1.
« Et maintenant, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison, hein ?»
Lucette, ahurie.
« Moi ? Et pourquoi ça ?»
Boislanguin.
« Pourquoi ? Elle demande pourquoi ? Parce que il y a des courants d'air, là !»
Lucette.
« Où ça ?»
Boislanguin ne sachant plus ce qu'il dit.
« Partout, au-dessus de l'estrade. »
Lucette.
« Au-dessus de l'estrade. Il y a des... »
Brusquement.
« Je vais en parler à la baronne. »
Elle remonte. Boislanguin la rattrapant de sa main droite et la faisant redescendre aux deux.
« C'est ça. Ça fera des cancans. Elle saura que c'est moi qui t'en ai parlé. »
Lucette.
« mais non, je ne prononcerai pas ton nom. »
On aperçoit la baronne dans le second salon.
« Voici la baronne. Je vais en avoir le cœur net. »
Boislanguin se précipitant à droite.
« Ma belle-mère, je file. »
Lucette.
Eh bien, où vas-tu?
Boislanguin dans l'embrasure de la porte.
Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu.
Et il disparaît. Lucette.
Où est-il drôle?
De Cheneviette qui a assisté à cette scène avec un profond ahurissement. À part.
C'est égal, je serais curieux de connaître le fin mot de tout ça.
Scène 9. De Cheneviette, Lucette, la baronne. La baronne.
Ou peut-être passer mon gendre.
Lucette.
« Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. »
La baronne descend ainsi que Lucette.
« Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. »
La baronne avec un soubresaut.
« Dans mon salon ?»
Lucette polie, mais sur un ton qui n'admet pas de réplique.
« Oui, madame, on me l'a dit. et je vous avouerai que je ne peux pas chanter avec un vent coulis sur les épaules. »
La baronne, dans tous ses états, ne sachant qui prendre à témoin, tantôt à Lucette, tantôt à Chenviette.
« Mais madame, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Un vent coulis dans mon salon? Mais c'est insensé! Voyons, monsieur, oh, dans mon salon! Madame, un vent coulis! Mais venez voir par vous-même si vous trouvez le moindre courant d'air. »
Lucette. « Eh bien, c'est ça. Parfaitement, allons voir. Parce que vous comprenez, moi, chanter dans ces conditions-là. »
La baronne. « Mais venez, je vous en prie. »
En s'en allant.
« Dans mon salon, un vent coulis. Non, non !»
Ces dernières phrases sont dites en s'en allant, les deux femmes parlant ensemble. Scène 10. De Chenviette, Bois d'Anguin, puis Viviane, puis Lucette et la baronne. De Chenviette gagnant la droite.
« Oh là 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 là, parbleu, il n'y en a pas de courant d'air, il n'y en a pas !»
Bois d'Anguin, comme un boulet, surgissant par la porte de gauche et tout essoufflé.
« Ouf! Vous êtes seul ?»
De Chenviette.
« Allons bon, vous arrivez par là, vous ?»
Bois d'Anguin.
« Oui, parce que j'étais parti par là. »
Il indique la porte de droite. « Et alors j'ai fait... » Il indique un geste qu'il a fait le tour par en haut et qu'il est redescendu par la gauche. De Chenviette.
« Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?»
Bois d'Anguin.
Ce qu'il y a, il y a que j'ai une maison de 5 étages suspendue sur ma tête, que Lucette est ici et que c'est mon contrat de mariage qu'on va signer tout à l'heure.
De Chenviette, bondissant.
Non.
Bois d'Anguin, accablé.
Si.
De Chenviette, se frappant la cuisse.
Nom d'un pétard.
Par ce mouvement, il se trouve tourné à demi le dos à Bois d'Anguin et regarder l'avant-scène droite. Bois d'Anguin.
Oh oui, nom d'un pétard.
Faisant pivoter Chenviette sur lui-même en le poussant sur l'épaule droite et en le tirant sur l'épaule gauche, de façon à lui faire un tour complet.
« Et c'est ce pétard qu'il faut absolument que vous m'évitiez en trouvant le moyen d'emmener Lucette de gré ou de force. »
De Chenviette.
« Mais comment ?
Comment ? » Bois d'Anguin.
« Ah, je ne sais pas, mais il faut. »
De Chenviette se tournant comme précédemment.
« Je vais essayer. »
Bois d'Anguin le faisant pivoter comme précédemment.
« Où est-elle en ce moment ? Où est-elle ? »
De Chenviette, furieux de se voir bousculer de la sorte et se dégageant.
« Avec la baronne, dans le salon, en train de s'expliquer sur votre vent coulis. »
Il remonte. Bois d'Anguin.
« Ah mon Dieu, ça va éclater alors, c'est évident !»
Voix dans la coulisse. De Chenviette, vivement à Bois d'Anguin.
« Attention, les voilà qui reviennent !»
Bois d'Anguin.
« Oh !»
Il se précipite à droite pour s'esquiver et va donner dans Viviane qui entre de droite. Viviane et Bois d'Anguin ensemble.
« Oh ! Oh !»
Ils se frottent l'un et l'autre l'épaule cognée. Dans leur élan, Viviane a été portée aux deux et Bois d'Anguin aux trois. Bois d'Anguin à part.
Fichtre !
Oh, en éclatant de rire.
Et tiens, c'est vous !
Viviane.
Eh bien, où étiez-vous ? Voilà une demi-heure que je vous cherche !
Bois d'Anguin.
Mais moi aussi, moi aussi !
Voulant l'entraîner.
Eh bien, cherchons ensemble, cherchons ensemble !
Viviane le retenant.
Moi, cherchons quoi, puisque nous nous sommes trouvés ?
Bois d'Anguin.
« Ah, c'est juste. À part. Oh, je ne sais plus ce que je dis. »
Viviane, à part.
« Mais il est bête !»
De Chenviette, qui est redescendue à l'extrême gauche.
« Il bafouille, le pauvre garçon, il bafouille !»
On entend la voix de la baronne. De Chenviette à Bois d'Anguin.
« Elle ! Elle !»
Bois d'Anguin essaie de gagner la porte de droite à pas de loup pour s'esquiver sans être aperçu. La baronne, au fond.
« Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison !»
Lucette.
« Mais en effet !»
La baronne au moment où Bois d'Anguin va disparaître.
« Ah, Bois d'Anguin, enfin vous voilà !»
Bois d'Anguin, pivotant sur ses talons et avec aplomb.
« Mais je venais !»
La baronne à Lucette pour lui présenter Bois d'Anguin.
« Mademoiselle ?»
Bois d'Anguin à part.
« Oh là 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 là, oh là là !»
La baronne à Lucette, qui d'ailleurs fait signe de la tête qu'elle connaît.
« Voulez-vous me permettre de vous présenter ?»
De Chenviette se précipitant entre Lucette et la baronne et saisissant Lucette par la main, l'entraîne au fond, non sans bousculer la baronne.
« Non, non, c'est pas la peine, elle connaît, elle connaît !»
Tous.
« Hein ?»
Tumulte général. De Chenviette, l'entraînant.
« Viens, viens avec moi !»
Lucette se débattant.
« Mais où ? Mais où ?»
De Chenviette, même jeu.
« Cherchez le vent coulis, je sais où il est, je sais où il est !»
Lucette, disparaissant, entraînée de force par Chenviette.
« Mais non, mais non, ma homme, mais voyons !»
Bois d'Anguin, qui seul n'est pas remonté, à part, avec joie.
« Oh, mon Terre-Neuve, je l'embrasserai, je l'embrasserai !»
Scène 11. Les mêmes, moins Lucette et Chenviette. la baronne au fond avec Viviane.
« Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça ?»
Boislanguin.
« Pourquoi ?»
Il gagne le fond à pas de géant, se place entre elles deux, les prend chacune par la main et les faisant redescendre également à grandes enjambées qu'elles suivent comme elles peuvent.
« Parce que vous alliez faire un impair énorme, »
à la baronne.
« Un impair, moi ?»
Viviane.
« Et comment ça ?»
Boislanguin.
« Vous alliez me présenter, monsieur de Boisdanguin, mon gendre, ou le futur, le fiancé, quelque chose comme ça. »
La baronne.
« Mais naturellement. »
Boisdanguin sur un ton de profond mystère.
« Eh bien, voilà justement ce qu'il ne faut pas. C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. C'est pour ça qu'il l'a entraîné. Il ne faut jamais prononcer le mot de futur, de gendre ou de fiancé devant Lucette Gauthier. »
La baronne.
« Et parce que ?»
Boisdanguin.
« Eh bien voilà, parce qu'il paraît... C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. »
Viviane, avec intérêt.
« Vraiment ?»
Boisdanguin sur un ton lamentable.
« Un beau jeune homme qu'elle adorait et qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était d'une nature faible. »
Avec un soupir.
« Un beau jour, il a succombé. »
La baronne.
« Ah mon Dieu, à quoi ?»
Boisdanguin changeant de ton.
« À une vieille dame très riche qui l'a emmenée en Amérique. »
La baronne Viviane.
« Oh ! Oh !»
Boisdanguin sur un ton dramatique.
« Alors, flambé le mariage. Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Aussi, il suffit de prononcer devant elle les mots « gendre, futur ou fiancé ». C'est ce monsieur-là qui m'a prévenu. Aussitôt, crise de nerfs, pamoison, évanouissement. »
La baronne.
« Oh, mais c'est affreux ! Vous avez bien fait de m'avertir !»
Viviane.
Un roman d'amour, c'est gentil.
Boislanguin.
Eh bien voilà, sans moi, hein, et le monsieur qui m'a prévenu.
La baronne, pendant que Boislanguin remonte pour faire le guet.
Ah, oh, je suis bien contente de savoir ça.
Viviane.
Oh oui.
Lucette paraît au fond, discutant avec Fontanet et Chenebiette. Boislanguin, à part.
Eux ?
Il redescend comme une bombe, saisit Viviane et la baronne chacune par une main et les entraîne à droite.
Venez, venez avec moi.
La baronne et Viviane ahuries.
Hein? Comment? Pourquoi?
Boisdanguin les poussant par la porte de droite, Viviane d'abord, la baronne ensuite.
J'ai encore quelque chose à vous dire, à vous montrer. C'est là-haut, venez.
Il les pousse malgré leur récrimination et disparaît avec elle à droite. Scène 12. Lucette, de Chenviette, de Fontanet, puis Émile, le général. Lucette à Chenviette qui la précède.
Oh tiens, tu es stupide!
De Chenviette à part, descendant à gauche de la chaise longue.
« Il est embêtant, Boisdanguin. Il me fait jouer les rôles de crétin. »
De Fontanet.
« Oh, dites donc, je ne vous gêne pas ici. »
Lucette qui s'est assise sur la chaise longue et se met un peu de poudre en se regardant d'une glace à main.
« Mais non, mais non. »
De Fontanet descendant à droite.
« Parce que je me rase par là, c'est vrai. Tout le monde a filé et on me laisse là, tout seul, comme un pauvre pestiféré. »
Lucette.
« Vous êtes pauvre Fontanet. »
De Fontanet.
« Oh, c'est vrai, je suis à plaindre !»
Émile annonçant.
« Le général Irigoy !»
De Fontanet.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Lucette.
« Lui ? Oh !»
De Chenviette.
« Comment ? On a invité le Rastaquaire ?»
Lucette sans se lever.
« Oui, c'est moi !»
Au général qui paraît au fond.
« Eh, arrivez donc, général !»
Le général, un bouquet à la main, arrivant empressé et allant à Lucette.
« Oh, que je le suis en retard, que je le suis impardonnable, pourquoi je l'ai perdu un temps que je l'aurais pu passer près de vous ?»
Lucette.
« mais non, vous n'êtes pas en retard. »
De Chenviette.
« Bonjour, général. »
Le général, le saluant d'un petit coup de tête amical.
« Buenos dias. »
Il salue également Fontanet qui s'incline, à Lucette lui présentant le bouquet qui est composé de fleurs des champs.
« Permettez que je vous offre. »
Lucette sans le prendre.
« Oh, des fleurs des champs! Quelle idée originale !»
Le général galant.
« Bueno, que yo le pensé des fleurs des champs à l'étoile des champs !»
Tous avec une admiration railleuse.
« Ah, charmant !»
Le général, sur un ton dégagé, est satisfait.
« Et c'est tout motte !»
De Fontanet, flatteur.
« Entre parisiens !»
Le général s'incline au public en riant.
« C'est vrai, pour un pot rouge !»
Le général remettant à Lucette le bouquet qui est attaché par un rang de perles.
« Mais si la bouquette, il est maudite, la ficelle, il est bien !»
Lucette se levant et prenant le bouquet auquel elle enlève le collier qui le lie.
Un collier de perles? Oh, vraiment, général?
Le général grand seigneur.
Rien du tout. C'est une bagatelle.
De Fontanet au général.
Vous permettez?
Il passe devant le général et va admirer le collier avec les autres. Tous.
Oh, que c'est beau!
De Chenviette.
Matin!
Lucette, se faisant attacher le collier autour du cou par Chenviette.
Oh, je suis contente! Vous n'avez pas idée comme je suis contente!
De Fontanet.
Oh, c'est d'un goût! Oh, je trouve ça d'un goût!
Le général s'incline modestement.
Parole! C'est encore mieux que le mot, vous savez!
Lucette présentant Fontanet sans quitter Chenviette qui lui attache son collier.
Général, monsieur Ignace de Fontanet.
Le général tendant la main.
Je vous prie.
De Fontanet.
Enchanté, général, et tous mes compliments. Cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses.
Le général qui hume l'air sans se rendre compte de l'odeur qu'il respire.
Oh, je vous prie.
De Fontanet lui parlant dans le nez avec force courbette. À mesure que le général enfin renseigné se recule, Fontanet toujours gracieux marche sur lui. Le général à la fin se trouve ainsi acculé à l'extrême droite.
C'est beau d'être à la fois millionnaire et galant, quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants et de galants qui ne sont pas millionnaires.
Le général prenant le droit, toujours suivi par Fontanet.
Si, si,
tirant une petite boîte de son gilet et l'attendant à Fontanet.
Et prenez donc une pastille.
De Fontanet.
Hein? Qu'est-ce que c'est que ça?
Le général.
Des pastilles que je les prends quand je le fume un cigare.
De Fontanet s'inclinant et bien dans le nez du général.
Alors inutile, général, je ne fume pas.
Le général, vivement, élevant son chapeau claque de la main gauche d'un geste qui peut être pris pour un geste de regret, mais qui, en réalité, n'a d'autre but que d'élever un rempart qui mette son odorat à l'abri.
« Je les regrette !»
tendant la main de la main droite.
« Prenez tout de même !»
De Fontanet.
« Pour vous être agréable !»
Le général.
« Je vous l'engrasse !»
Le général regagne la gauche, suivi et obsédé par Fontanet qui continue de lui parler. Il se défend comme il peut contre lui grâce à son claque qu'il tient comme une barrière entre eux et avec lequel il fait, ainsi que de la tête, des gestes d'acquiescement comme on fait avec une personne avec qui on ne tient pas à prolonger une discussion. Apercevant la baronne qui arrive de droite. À Fontanet.
« Pardon !»
Il descend un peu au 4. Fontanet remonte au 3. Scène 13. Les mêmes, la baronne, puis Bois d'Anguin, Viviane. La baronne entrant de droite.
« Non !» On n'a pas idée de ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour nous dire dans le grenier « Vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas de paratonnerre sur la maison ?»
Le général saluant.
« Madame ?»
Lucette.
« Ah, madame, permettez-moi de vous présenter un de mes bons amis, le général Irigoy. »
Le général s'inclinant.
« Soi-même !»
Lucette. « Qui a été heureux de profiter d'une de vos cartes d'invitation ?» Le général montrant par acquis de conscience sa carte d'invitation.
« Yolé la contre-marque !»
La baronne souriant.
« Oh, c'est inutile !»
Minaudant.
« Vous savez, général, c'est une soirée toute de famille !»
Le général, très gracieux, comme s'il disait la chose la plus polie du monde.
« Il m'est calme, je viens pour mademoiselle Cotier !»
La baronne interloquée.
« Ah !
Alors ?» À part pendant que le général va parler à Lucette.
« Eh bien, au moins, il ne me l'envoie pas dire !»
Viviane, arrivant de droite, traînant Bois d'Anguin.
« Eh bien, venez, venez donc. Qu'est-ce que vous avez ce soir ?»
Bois d'Anguin.
« Hein ? Ah, mais rien ?»
À part.
« Allons bon, le général ici. »
Le général, qui s'est retourné, reconnaissant Bois d'Anguin.
« Tiens, Baudelet, que vous allez nous chanter quelque chose ?»
Tous.
« Comment chanter quelque chose ?»
Le général.
« Bueno, puisqu'il est un ténor. »
Tous.
« Non !»
Viviane.
« Comment ? Vous chantez, vous ?»
Bois d'Anguin.
« Oh, vous savez, mais peu, très peu !»
Viviane.
« Oh, je ne savais pas. Tiens, nous ferons de la musique !»
Bois d'Anguin au public.
« Ah, ça va bien. Ça va très bien !»
Scène 14. Les mêmes, Émile, le notaire, puis Bouzin dans le fond. Émile. Maître Lanterie. La baronne allant à la rencontre du notaire.
« Ah, le notaire. Bonjour, Maître Lanterie. »
Maître Lanterie, descendant un peu et à droite, avec la baronne.
« Bonjour, madame la baronne. Messieurs, mesdames. »
Le général, après être remonté, redescend causer avec Chenviette, à gauche de la chaise longue. La baronne.
« Puisque vous voilà, nous allons pouvoir commencer de suite. Vous avez le contrat ?»
Maître Lanterie.
« Non, mais un de mes clercs l'apporte. Ah, justement, le voici. »
Bouzin paraît au fond parlant à Émile. La baronne.
Parfait.
Boislanguin à part, traversant la Seine, allant à Lucette.
Sapristi, Bouzin ici ? À Lucette. Dis donc, Bouzin là ?
Lucette.
Bouzin ? Ah bien, si le général le voit.
Elle occupe le général en tournant le dos au public, de façon à empêcher le général de se retourner. La baronne, qui est remontée à la suite du notaire, qui lui-même est allé retrouver Bouzin dans le second plan.
« Mes amis, si vous voulez venir par là pour la lecture du contrat. »
De Fontenay, Viviane, Boislanguin.
« Mais parfaitement. »
Ils sortent, sauf Boislanguin qui gagne la droite. La baronne du fond.
« Monsieur de Chenebiette ?»
De Chenebiette qui cause avec le général à la baronne.
« Mais très honoré, madame. »
Au général.
« Vous permettez, général ?»
Le général.
« Je vous prie, cheviotte. »
Il continue de causer avec Lucette. La baronne à Bouzin dans le second salon.
« Ah, mais c'est ce monsieur que j'ai vu ce matin !»
Bouzin la reconnaissant.
« Ah, madame la baronne ! Eh bien, si je m'attendais, on est en pays de connaissance, alors !»
La baronne.
« Mon Dieu, oui !»
Bouzin, le notaire, Viviane, Fontanet et Geneviette disparaissent dans la coulisse. Du fond, à Lucette.
« Vous ne voulez pas assister, madame ?»
Boislanguin sursautant.
« Hein ?»
Lucette.
« Mon Dieu, madame, je vais achever mes petits préparatifs ici. »
Elle va à l'armoire chercher un corsage que Marceline y a précédemment accroché. La baronne.
« Comme vous voudrez, madame. »
Boislanguin poussant un soupir de soulagement.
« Ouf !»
La baronne au général.
« Et vous, général ?»
Le général s'inclinant.
« Je vous rends grâce. Je reste avec mademoiselle Cottier. »
Il descend à l'extrême gauche. La baronne à part.
« Naturellement.
Oh !»«
Venez, Boislanguin. »
Elle sort. Boislanguin empressé.
« Voilà, voilà !»
Lucette redescendant presque à la chaise longue avec son corsage dont elle défait les lacets.
« Ah, tu ne vas pas y aller, toi !»
Boislanguin subitement cloué au sol.
« Ah, tu crois que... »
Lucette.
« Mais non, qu'est-ce que ça te fait, leur contrat ?»
Boislanguin prenant l'air indifférent.
« Oh !»
Lucette.
« Est-ce que ça s'intéresse ?»
Boislanguin, même jeu.
« Moi ? Oh là 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 !»
Le général, comme un argument sans réplique.
« Est-ce que y vais, moi ?»
Bueno. Boislanguin.
Oh, vous parbleu, tiens.
À part au public.
Il me paraît bien difficile, cependant, de ne pas assister à mon contrat.
Lucette remontant vers l'armoire.
Si tu y tiens absolument, tu iras un peu vers la fin.
Boislanguin saisissant la balle au bond.
Ah oui.
Lucette s'arrêtant en route.
Avec moi.
Elle achève d'aller à l'armoire et raccroche son corsage. Boislanguin à part.
Ah bien, ce sale bouquet.
Tous dans la coulisse.
Boislanguin ! Boislanguin !
Boislanguin à part.
Allons bon, les autres maintenant.
Haut et agacé.
Voilà, voilà !
Lucette redescendant à la chaise longue.
Mais qu'est-ce qu'ils ont après toi ?
Boislanguin affectant de rire.
Je ne sais pas, je me le demande.
Tout le monde paraît au fond, à l'exception du notaire. La baronne.
Eh bien, venez donc, Boislanguin, qu'est-ce que vous faites ?
Montrant Bouzin qui est allé se placer par habitude de bureaucrate derrière la table de droite.
« Monsieur vous attend pour lire le contrat. »
Le général apercevant Bouzin et bondissant.
« Poussin !»
Bouzin.
« Le général ici, sauvons-nous !»
Poursuite autour de la table, en va-et-vient, en sens contraire de la part du général et de Bouzin, puis en faisant le tour complet de la table au milieu du tumulte général. Le général faisant la chasse à Bouzin.
« Poussin ici ! Encore Poussin ! Attends, Poussin ! C'est un homme mort, Poussin !»
Bouzin s'est sauvé par la droite en faisant tomber au passage la chaise qui est près de la porte dans les jambes du général. Le général l'enjambe. La baronne dans le tumulte général.
« Eh bien, mais qu'est-ce qu'il y a ? Où vont-ils ? »
Lucette.
« Ne craignez rien, madame. Courez, de Geneviette, séparez-les !»
De Geneviette.
« J'y vole. »
Pendant ce dialogue très rapide au milieu du brouhaha général, ce qui en fait presque une pantomime, Bouzin s'est sauvé par la droite en faisant tomber au passage la chaise qui est à droite de la porte dans les jambes du général. Le général enjambe la chaise, Boislanguin qui s'est précipité tient le général par une basque de son habit. Geneviette qui s'est lancée à son tour enlève à bras le corps Boislanguin qui lui obstrue le passage, le rejette derrière lui et se précipite à la poursuite. Affolement des personnages qui restent. Un instant après, on aperçoit dans le second salon la poursuite qui continue. Bouzin traverse le premier et le fond en courant, puis successivement le général et Geneviette. La baronne.
Mais en voilà une affaire ! Qu'est-ce que c'est que cet homme-là ?
Qu'est-ce qu'il a après ce garçon ?
Lucette.
Excusez-le, madame, je vous en prie.
La baronne.
Enfin, c'est très désagréable, ces histoires chez moi.
Les deux femmes continuent de parler à la fois. Lucette pour excuser le général, la baronne pour manifester son mécontentement. Enfin, d'une voix impérative.
Voyons, finissons-en. Nous avons un contrat à lire. Boilanguin, donnez le bras à ma fille et venez.
Elle remonte. Lucette prise de soupçon.
Mais pourquoi, monsieur Boilanguin ?
La baronne sous le coup de l'émotion et sans réfléchir.
Mais comment, pourquoi ? Parce que c'est son fiancé.
Lucette.
Son fiancé, lui ?
Poussant un cri strident.
Ah !
Elle s'évanouit. Tous.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Marceline qui a reçu Lucette dans ses bras.
Ah mon Dieu, ma sœur, du secours, elle se trouve mal.
Tout le monde, à l'exception de la baronne et de Viviane qui redescendue reste pétrifiée sur place, entoure Lucette qu'on étend sans connaissance sur la chaise longue. Boilanguin, revenant à la baronne et lui faisant carrément une scène.
Là, voilà, ça y est, vous avez prononcé le mot de fiancé, et voilà.
La baronne.
Moi ?
Viviane faisant aussi une scène à sa mère.
Mais oui, toi !
Boilanguin.
Et on vous prévient !
Il retourne à Lucette. Viviane.
Puisqu'on t'avait dit de ne pas parler de fiancé.
La baronne énervée hausse les épaules. Le général, entrant vivement par le fond gauche, emboîté par Geneviève.
Voilà, il vient de les flanquer par la porte, Bousset.
De Geneviève à part, s'épongeant le front.
Oh, quelle soirée, mon Dieu!
Le général, apercevant Lucette, évanouit.
Dios! Quelle est là, Lucette? Il est malade?
Allant à Lucette.
Lucette!
Boilanguin, quittant Lucette et frappant dans ses mains pour presser les gens.
« Vite, du vinaigre, des sels !»
Marceline.
« J'y cours !»
Elle sort par la gauche pendant que Boilanguin, la baronne et Viviane, comme des gens qui ne savent pas où donner de la tête, vont chercher des sels sur la toilette du fond. Le général tapant dans les mains de Lucette pendant que Geneviève en fait autant de l'autre côté.
« Mademoiselle Gautier, revenez à moi! Revenez à moi !»
De Fontanet, qui est derrière la chaise longue, naïvement en se penchant sur la figure de Lucette.
« Il faudrait lui faire respirer d'air pur !»
Boilanguin revenant avec un flacon de sel.
« Oui, eh bien, alors retirez-vous de là !»
De Geneviève et le général.
« Oui, allez-vous-en, allez-vous-en !»
Boilanguin vivement, repassant au milieu de la scène.
« C'est ça, allons-nous-en tous !»
À la baronne et à Viviane qui sont un peu remontées.
« Laissons ces messieurs avec elle, nous finirons de signer par là, nous !»
Tous.
« Oui, oui, c'est ça !»
Le général d'une voix forte au moment où Boilanguin va partir avec les deux femmes.
« Oncle, qui est là, oncle ?»
Boilanguin, très affairé, tirant une clé de sa poche, la donne au général et remontant tout en parlant.
« Une clé, voilà.
Pourquoi ? Le général.
« Gracias. »
Il la met dans le dos de Lucette. Boilanguin redescendant pour prendre sa clé.
« Vous êtes fou ! C'est la clé de mon appartement ! Elle ne saigne pas du nez !»
Le général, qui a mis la clé dans le dos.
« Je vais voir si ça fait le même. »
La baronne s'impatientant à Boilanguin.
« Eh bien voyons, allons par là, nous !»
Boilanguin cavalcadant sur place comme un homme attiré de deux côtés.
« Voilà, voilà !»
À part. « Je signe et je reviens. » Tout le monde sort, à l'exception de Fontanet, du général, de Geneviève et de Lucette évanouie. Les portes du fond se referment. Elles ne s'ouvrent plus, jusqu'à la fin de l'acte, qu'à devant tout. Scène 15. Lucette, de Fontanet, le général, de Geneviève. Le général.
« Vite ! De l'eau, du vinaigre, quelque chose, ou liquide !»
De Fontanet remontant chercher de l'eau à la toilette du fond.
« Attendez, attendez !»
De Geneviève.
« Quelle aventure, mon Dieu !»
Le général.
« Oh, Dios mio, mademoiselle Gautier, revenez à moi, mademoiselle Gautier !»
De Fontanet, revenant avec une serviette imbibée d'eau.
« Voilà de l'eau !»
Le général.
« Gracias !»
Lui tamponnant le fond et suppliant.
« Reviens à moi, Gautier, Gautier, reviens à moi !»
De Fontanet, qui est remonté à sa place première derrière la chaise longue.
« Vous ne croyez pas que si je lui soufflais sur le front... »
De Geneviève et le général le repoussant d'un bras et vivement avec un ensemble touchant.
« Non !»
De Fontanet, redescendant aux trois au milieu de la scène.
« La pauvre femme, ce qui l'a mise dans cet état, c'est le mariage de Boilanguin !»
De Geneviève sursautant et à part.
« Allons bon !»
Le général, sans cesser de tamponner Lucette, regardant Fontanet.
« D'où ténor ? Quoi lui fait son mariage ?»
De Fontanet.
« Oh tiens, vous êtes bon, c'est son amant !»
Le général bondissant et rejetant sa serviette sans s'apercevoir que c'est sur la figure de Lucette.
« Hein ?»
De Geneviève à part, indiquant Fontanet.
« Là, l'autre crétin !»
Apercevant la serviette sur la figure de Lucette.
« Oh !»
Il la retire et la tamponne à la place du général. le général sautant à la gorge de Fontanet et le secouant comme un prunier.
« Qu'est-ce que tu dis, Bodégué, il est sous la main ?»
de Fontanet dans la figure du général.
« Mais oui, qu'est-ce que vous avez ?»
Le général, qui a reçu la laine de Fontanet dans le nez, a un soubresaut, fait « pfff » pour chasser l'odeur, puis continuant à le secouer, mais en ayant soin de tourner la tête au-dessus de son épaule droite.
« Il est sous la main, Bodégué ?»
de Fontanet, à moitié étranglé.
« Mais lâchez-moi, voyons, mais qu'est-ce qui vous prend ?»
Scène 16. Les mêmes Bois d'Anguin. Bois d'Anguin arrivant vivement du fond.
« Eh bien, sera-t-il mieux ?»
Le général repoussant Fontanet qui manque de tomber et sautant à la gorge de Bois d'Anguin qu'il fait pirouetter de façon à le faire passer du 3 au 4.
« C'est vous qui l'avez la main de Mademoiselle Gauthier ?»
Bois d'Anguin suffoqué.
« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»
Le général le secouant.
« C'est vous qui l'avez la main ?»
de Fontanet à part.
« Oh, j'ai fait une gaffe !»
Il s'esquive par le fond. Bois d'Anguin.
« Mais vous n'avez pas fini ! Voulez-vous me lâcher ?»
de Chenviette, essayant de les calmer sans quitter Lucette.
« Voyons, voyons !»
le général rejetant Bois d'Anguin est bien large.
« Bodégué, voulez qu'on reste à couer ?»
Bois d'Anguin.
« Moi !»
le général.
« Vous, et je vous tourerai !»
Il retourne à Lucette et lui tape dans les mains. Bois d'Anguin, furieux.
« Ah là, me tuer ? Et pourquoi d'abord ? Pourquoi ?»
Le général revenant à lui et d'une voix forte.
« Porque yo l'aime et que yo supporte pas, il est un baquette dans mes roues !»
Bois d'Anguin, criant plus fort que lui.
« Eh bien, vous voyez bien que je me marie. Qu'est-ce que je demande ? C'est que vous m'en débarrassiez de votre Lucette !»
Le général, subitement calmé.
« C'est vrai ? Alors vous n'aimez plus Lucette ?»
Bois d'Anguin, criant toujours et articulant chaque syllabe.
« Mais puisque je me marie, voyons !»
Le général.
« Ah, Bodégué, vous êtes un ami !»
Il lui serre les mains. De Chenviette.
« Elle rouvre les yeux !»
Bois d'Anguin.
« Laissez-moi seul avec elle. Je vais tenter un dernier va-tout. »
Le général sortant.
« Bueno, je vous laisse. »
À Lucette en s'en allant.
« Reviens à Louis, Gauthier. Gauthier, reviens à Louis. »
Ils sortent par le fond. Bois d'Anguin referme la porte sur eux. Scène 17. Bois d'Anguin, Lucette, puis la voix de la baronne. Lucette revenant à elle.
« Qu'ai-je eu ? Qu'ai-je eu ?»
Bois d'Anguin se précipitant à ses genoux.
« Lucette !»
Lucette posant tendrement ses mains sur les épaules de Bois d'Anguin et d'une voix plaintive.
« Toi, toi, c'est toi, mon chéri ?»
Bois d'Anguin.
« Lucette, pardonne-moi, je suis un grand coupable, pardon !»
À ces mots, l'expression de la figure de Lucette change. On sent que la mémoire lui revient peu à peu. Lucette, brusquement le repoussant, ce qui manque de le faire tomber en arrière.
« Ah, ne me parle pas, tu me fais horreur !»
Elle s'est levée et gagne la droite. Bois d'Anguin, allant à elle en marchant sur les genoux, suppliant.
« Lulu, ma Lulu !»
Lucette, la parole hachée par l'émotion.
« Ainsi, c'est vrai, ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le tien !»
Bois d'Anguin, se levant comme un coupable qui avoue.
« Eh bien oui, là, c'était le mien. »
Lucette.
« C'était le sien, il l'avoue !»
Avec dégoût.
« Ah, oh, misérable !»
Bois d'Anguin suppliant.
« Lucette !»
Lucette l'arrêtant d'un geste avec un rictus amer.
« Ah, oh, c'est bien, je sais ce qu'il me reste à faire !»
Elle a un grand geste de la main qui signifie « Le sort est jeté » et passe à gauche. Bois d'Anguin inquiet.
« À quoi ?»
Lucette ouvrant son sac dans lequel elle fouille.
« Ah, oh, tu sais ce que je t'ai promis !»
Bois d'Anguin à part.
« Qu'est-ce qu'elle m'a donc promis ?»
Lucette d'une voix étranglée.
« C'est toi qui l'auras voulu !»
tirant un revolver de son sac et sanglotant.
« Adieu, et sois heureux !»
Bois d'Anguin se précipitant pour la désarmer et lui paralysant les bras en la tenant à bras le corps.
« Lucette, voyons, tu es folle au nom du ciel !»
Lucette se débattant.
« Veux-tu me laisser ? Veux-tu me laisser ?»
Bois d'Anguin tâchant de prendre l'arme et cherchant en même temps tous les arguments pour la calmer.
« Lucette, je t'en supplie ! Grâce ! D'abord par convenance ! Ça ne se fait pas chez les autres !»
Lucette avec un rire amer.
« Oh, c'est ça qui m'est égal !»
Bois d'Anguin affolé et la tenant toujours.
« Et puis écoute-moi, quand tu m'auras entendu, tu verras, tu te rendras compte. Tandis que si tu te tues, je ne pourrai pas t'expliquer !»
Lucette se dégageant.
« Eh bien, quoi ? Quoi ?»
Bois d'Anguin vivement.
« Donne-moi ce pistolet !»
Lucette parant le mouvement de Bois d'Anguin.
« Non, non, parle, parle d'abord !»
Boisdang avec désespoir.
« Oh mon Dieu !»
Voix de la baronne dans la coulisse.
« Boisdanguin ! Boisdanguin !»
Lucette n'en pouvant plus.
« Oh, j'ai chaud !»
Elle tire sur le guidon du revolver, ce qui fait sortir un éventail avec lequel elle s'évente nerveusement. Boisdanguin à la cantonade avec mauvaise humeur.
« Eh bien oui, oui, tout de suite !»
Fermant la porte du fond.
« Oh, ce qu'ils sont embêtants !»
Lucette à part. Ah, il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme. Elle referme l'éventail, remet le revolver dans le sac et remonte au-dessus du guéridon, à gauche de la chaise longue où elle s'agenouille. Boisdanguin, allant à elle, suppliant.
Lucette, je t'en prie, du courage, au nom de notre amour même.
Lucette, les bras en l'air, se laissant tomber de tout son long, à plat ventre sur la chaise longue.
Notre amour, est-ce qu'il existe encore?
Elle sanglote, la figure cachée dans ses bras, et ses bras croisés et appuyés sur le sommet du dossier de la chaise longue. Boisdanguin, s'accroupissant derrière la chaise longue de façon à faire face à Lucette quand elle relevera la tête.
« Comment s'il existe ?»
Lucette, relevant la tête avec des hoquets de douleur.
« Puisque tu te maries !»
Boisdanguin, même jeu.
« Eh bien, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que la main droite n'est pas indépendante de la main gauche? Je me marie d'un côté et je t'aime de l'autre !»
Lucette, se redressant à moitié, et les genoux sur la chaise longue, avec l'air d'abonder dans son sens, d'une petite voix flûtée.
« Oui ?»
Boisdanguin avec une conviction jouée.
« Et parbleu !»
Il va la rejoindre à droite de la chaise longue en longeant le meuble. Lucette à part au public.
« Oh, comédien !»
Boisdanguin à part tout en allant la rejoindre.
« Ce que je la lâche une fois mariée !»
Oh, en s'asseyant sur la chaise longue, côté droit.
« Ma Lulu !»
Lucette, à genoux, côté gauche de la chaise longue, jouant son jeu pour lui donner le change.
« Mon non, non, tu m'aimes ?»
Boisdanguin.
« Je t'adore !»
Lucette.
« Chérie, va !»
Elle se redresse toujours à genoux et sa main droite, en venant s'appuyer sur le guéridon, se pose sur le bouquet. À part.
Oh, « quelle idée !»
Reprenant la comédie qu'elle joue et les deux bras autour du cou de Boisdanguin.
« Alors nous pourrons nous aimer encore comme autrefois ?»
Boisdanguin jouant la même comédie.
« Mesdames !»
Lucette avec une joie feinte.
« Oh, quelle joie ! Moi qui me disais... Tu ne sais pas ce que je me disais ? C'est fini, nos amours d'autrefois !»
Boisdanguin.
« Nos amours ? Oh là 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 !»
Lucette, montrant le bouquet du général, en tenant toujours du bras gauche Boisdanguin par le cou.
« Tiens, regarde ces fleurs des champs. Elle ne te rappelle rien ?»
Boisdanguin sur le même ton sentimental.
« Si, elle me rappelle la campagne. »
Lucette avec un soupir, se redressant sur ses deux genoux et les bras en l'air comme pour embrasser les images qu'elle évoque. Pendant que Boisdanguin, le bras droit autour de sa taille, l'écoute, le corps un peu courbé.
« Oui, le temps où nous allions comme deux étudiants nous ébattre dans les blés. »
Boisdanguin à part.
Ah, voilà ce que je craignais, les petits oiseaux dans la prairie, là, te souviens-tu ?
Lucette, s'accroupissant à nouveau sur ses genoux pour rapprocher sa figure de la sienne, en lui prenant le menton de la main droite.
Te souviens-tu ?
Boisdanguin à part, le menton dans la main de Lucette.
Là, qu'est-ce que je disais ?
Lucette.
Nous nous roulions dans l'herbe, et moi je prenais un bel épi, comme ça.
Elle tire un épi de seigle du bouquet.
Et je te le mettais dans le cou.
Profitant de ce que Boisdanguin l'écoute, la tête un peu baissée, elle lui plonge l'épi dans le cou. Boisdanguin se débattant.
« Oh voyons, qu'est-ce que tu fais ?»
Lucette enfonçant toujours. Et alors il descendait, appuyant sur chaque syllabe en faisant au public un clignement de l'œil comme pour dire. « Attends un peu. Il descendait ?» Boisdanguin qui s'est levé, essayant de rattraper l'épi dans son cou.
« Oh mais c'est stupide, je ne peux pas le rattraper !»
Lucette, seule à genoux sur la chaise longue, hypocritement et d'une voix flûtée.
« Vrai ? Il te gêne ?»
Boisdanguin.
« Oh, mesdames ! »
Lucette avec une compassion feinte.
« Oh !»
Changeant de ton.
« Eh bien, enlève-le ! »
Boisdanguin faisant des efforts désespérés pour retirer l'épi.
« Oh, comment enlève-le ? Il est sous mon gilet de flanelle !»
Lucette sur le ton le plus naturel.
« Oh, mais déshabille-toi ! »
Boisdanguin furieux.
« Ah, tu es folle ? Ici ? Quand ma soirée de contrat a lieu à côté ?»
Lucette se levant et descendant, faisant le tour de la chaise longue.
« Ah, qu'est-ce que tu as à craindre ? Nous fermons tout ?»
Elle remonte et ferme au fond et à gauche, puis redescend.
« Si on vient, on trouvera ça tout naturel, puisqu'on sait que j'ai à m'habiller. on croira que tu es parti.
Boislanguin.
Mais non.
Lucette avec lyrisme.
Ah, tu vois bien que tu ne m'aimes plus.
Boislanguin.
Mais si.
Lucette.
Sans ça, tu ne regarderais pas à te déshabiller devant moi.
Boislanguin, toujours occupé de son épi qui le gêne, et sur le même ton que son mais non et son mais si.
Mon Dieu.
Joint des coudes pour faire descendre son épi.
Oh, mais c'est affreux ce que ça pique.
Lucette.
Mais ne sois donc pas bête. Va derrière ce paravent et cherche-le, ton épi.
Boislanguin remontant.
Ah, ma foi, tant pis, je n'y tiens plus. C'est bien fermé, au moins.
Lucette.
Mais oui.
Boislanguin pénètre derrière le paravent dont il développe les feuilles autour de lui. Pendant ce temps, Lucette a une pantomime au public. Un geste expressif de possession, en même temps qu'elle murmure à voix basse. Cette fois, je te tiens. Puis, pendant ce qui suit, elle va doucement tourner la crémone de la porte du fond, puis tirer le verrou de la porte de gauche.
Et moi-même, je vais commencer à m'habiller pour les choses que j'ai à chanter.
Elle est allée prendre sa jupe de théâtre dans l'armoire et redescend près de la chaise longue. Boislanguin derrière le paravent.
Oh, c'est égal, c'est raide ce que tu me fais faire.
Lucette enlevant la jupe qu'elle a sur elle.
Quoi? Pourquoi? Tu as un épi qui te gêne, c'est tout naturel que tu le cherches.
Boislanguin.
Oh oui, tu as une façon d'arranger les choses.
On aperçoit au-dessus du paravent la chemise qu'il est en train d'enlever.
Ah, je le tiens, le coquin.
Lucette, de la chaise longue, avec une passion simulée.
Tu l'as? Oh, donne-le-moi.
Boislanguin.
Pourquoi?
Lucette.
Pour le garder, il a été sur ton cœur.
Boislanguin, tout en restant à demi abrité par le paravent. Il paraît en pantalon et en gilet de flanelle, le fameux épi à la main.
Mais non, je l'avais dans les reins.
Il fait mine de retourner derrière son paravent.
Lucette. Donne-le tout de même.
Boislanguin le lui apportant.
On le voilà.
Il veut retourner au paravent, mais Lucette a mis le grappin sur sa main et d'un mouvement brusque, elle l'attire à elle. Lucette, avec une admiration feinte.
Oh, que tu es beau comme ça!
Boislanguin, fa.
Oh, voyons!
Il fait mine de retourner. Lucette l'attire de nouveau à elle. Lucette, même jeu.
Est-il beau? Mon Dieu, est-il beau!
Boislanguin.
Oh, je t'assure, si on entrait, c'est bien fermé!
Lucette.
Mais oui!
L'attirant contre elle.
Ah, te sentir là, près de moi!
Se frappant sur la poitrine de la main droite, tout en le prenant de la main gauche.
Tout à moi, en gilet de flanelle.
Boislanguin.
Oh, voyons!
Lucette.
Et quand je pense que tout cela va m'être enlevé. Oh non, je ne veux pas!
Elle la saisit n'importe comment par le cou, ce qui le fait glisser à terre tandis qu'elle se laisse tomber assise sur le canapé, paralysant ses mouvements en le tenant toujours par le cou.
Mon Fernand, je t'aime!
Elle finit par le crier. Boislanguin affolé.
Mais tais-toi donc, tu vas faire venir!
Lucette criant.
Ça m'est égal, qu'on vienne, et on verra que je t'aime! Oh, mon Fernand, je t'aime!
Elle sonne, la main droite appuyée sur le timbre électrique qui retentit tant et plus. Boislanguin à genoux et toujours tenu par le cou, perdant la tête.
Allons bon, le téléphone à présent! On sonne au téléphone! Oh là là, mais tais-toi donc!
Pendant tout ce qui précède, cri continu de Lucette. Voix au dehors.
Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez!
Boislanguin.
On n'entre pas! Mais tais-toi donc!
La porte du fond cède et tous les personnages de la soirée paraissent à l'embrasure. Marceline paraît à gauche. Scène 18. Les mêmes, la baronne, Viviane, de Chenviette, le général, Marceline, de Fontanet, invités et invités. Tout le monde.
Oh!
Boislanguin.
On n'entre pas, je vous dis, on n'entre pas!
La baronne cachant la tête de sa fille contre sa poitrine.
Horreur! En gilet de flanelle!
Lucette, comme sortant d'un rêve.
Oh, jamais je n'ai été aimée comme ça!
Boislanguin.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Tous.
Quel scandale!
La baronne.
Une pareille chose chez moi! Sautez, monsieur! Tout est rompu!
Boislanguin.
Mais madame!
Le général, qui vient d'entrer, est descendant vers Boislanguin.
Demain à la matinée, il vous tourerait!
Boislanguin, désespéré.
Mon Dieu!